Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec jusqu'à 19h comme chaque jour le débat des grandes voix autour de vous. Ce soir, Nathalie Lévy, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
Et bonsoir à tous les trois. Merci bonsoir, d'être Nathalie. Dans ce studio ce soir pour regarder encore une fois ce qui s'est passé un peu partout en France et de 4, hein, cette nouvelle journée de manifestation, de mobilisation interprofessionnelle pour réclamer le retrait de la réforme des retraites, tandis qu'on en est au 36e jour de grève dans les transports, notamment RATP, hein, c'est là où il y a encore le plus de perturbations. Et on attend, bien sûr, demain, Édouard Philippe qui doit recevoir les partenaires sociaux à Matignon pour parler de cette conférence de financement proposée par la CFDT. On n'a pas encore les chiffres officiels, Isabelle Millet le disait, hein, sur la mobilisation du jour. Annoncée par la CGT tout à l'heure, près de 370 000 personnes à Paris contre 350 000 le 17 décembre, il y a à peu près 15 jours de cela. Catherine Ney, vous avez vu les images aujourd'hui, vous avez suivi aussi. On a l'impression d'un essoufflement ou plutôt on y est retourné motivé et
moi,
confiant.
J'ai l'impression qu'il y avait du monde quand même, mais combien Je ne peux pas le dire. Enfin, c'est pas un échec pour ceux qui voulaient faire grève, mais on va voir combien il y en aura dans tout le pays. Enfin, ça n'a rien de comparable avec les manifs en 2010, quand on pouvait compter jusqu'à 1 million de personnes dans les rues. Bon, s'il y en a en tout, 200 000, 300 000, ça sera bien, mais pour la nuisance, pour les gens, ça sera toujours terrible.
Voilà, la nuisance, elle continue, avec même 40% des TER et un tiers des Transiliens en circulation aujourd'hui. Charles Villeneuve, on entend, au moment où on se mobilise pour la 4e grande journée, Gérald Darmanin, interview au Figaro aujourd'hui même, Gérald Darmanin, ministre de l'Action des Comptes Publics, qui à ce stade, on peut dire que c'est au nom de l'exécutif qu'il parle, et qui dit ceci. Il dit à la fois que le gouvernement continue de penser que l'âge pivot est une mesure juste et efficace, que chacun doit faire un pas, gouvernement et syndicat, et que l'exécutif est prêt à donner du temps à la conférence sur le financement. Comment interpréter à ce moment-là les propos du ministre ?
Mais moi, je trouve que justement, c'est la résurrection de l'ancien monde par rapport au nouveau monde. Je trouve que dans la majorité, si vous voulez, ça tangue, indéniablement, que l'aile droite retrouve ses réflexes, que l'aile gauche retrouve les siens. Et que le « en même temps » me semble disparaître, justement. Et qu'on retrouve, si vous voulez, la ligne de clivage classique, c'est-à-dire la droite à l'image du Premier ministre. L'âge pivot est important, l'équilibre financier est important pour une réforme dite universelle à point. Et dès lors, il faut un équilibre financier, d'où l'âge pivot de 64 ans. Et de l'autre côté, il y a quand même aussi une frange non négligeable qui vient de la gauche dans La République en marche, qui, elle, de toute façon, dit finalement réforme universelle et seulement universelle. Et c'est en cela que je trouve qu'il y a un retour à l'ancien monde par rapport au nouveau monde, enfin à la fameuse formule.
Mickaël Darmon, cette interview-là de Gérald Darmanin, maintenant à la veille de la prise de parole de Édouard Philippe, sa vocation à quoi ? Entretenir la confusion ?
Non, sa vocation à préparer les esprits, puisque cette conférence de financement va exister, que vraisemblablement... l'âge pivot va sortir du texte, mais ça ne veut pas dire que la mesure ou les envies de trouver ou le besoin de trouver un équilibre pour le système des retraites ne va pas disparaître. Mais la formulation va très certainement donc s'estomper, disparaître et trouver une autre voie. Et que de ce point de vue-là, on est dans une logique de compromis qui va pouvoir se trouver très certainement demain. Ou en tout cas c'est ce qui s'est déjà demain. Moi ce qui me frappe, on a évoqué quelques instants la mobilisation, on est quand même dans une logique maintenant, on est rentré dans la partie en trompe-l'œil de ce conflit. 370 000 personnes, c'est pas grand-chose. On est à l'échelle du pays. On est maintenant sur un conflit parisien.
Parisien, francilien,
donc,
tout au moins.
Quand les auditeurs qui habitent ailleurs qu'à Paris entendent ce qui se passe, ils te disent mais chez nous ça roule, chez nous c'est pas bloqué. Donc il faut aussi prendre conscience que tout cela est en train de s'amenuiser.
On s'en reparle dans un instant. Vous allez évidemment nous livrer votre analyse sur tout ça et puis cette attente autour d'Édouard Philippe demain, parce qu'il l'a dit Laurent Escure à l'UNSA. Il a dit c'est demain la deadline. Hein.
Et vous pouvez bien sûr vous aussi poser vos questions et réagir en direct avec les grandes voix. Ça se passe au 39-21, votre grand journal du soir. C'est jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe avec Nathalie Lévy, entourée des grandes voix jusqu'à 19h, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon, et toutes vos réactions au 3921 et sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Alors évidemment, on discutait en off, hein, on dit entre nous, on discutait de la lecture de chacun et elle est différente autour de cette table parmi les grandes voix sur ce qui se joue quand Gérald Darmanin dit ce soir à la fois que l'âge pivot est une mesure juste, quand Djebbari, de l'autre côté, le ministre des Transports, dit on va bouger sur l'âge pivot, c'est pas une nécessité. Alors Catherine, qu'est-ce qu'on fait de tout ça?
Non mais Darmanin, qui est un proche du Premier ministre, s'est dit l'âge pivot est une mesure efficace et juste, mais le gouvernement est ouvert à toute une sorte de proposition. Mais il dit la même chose que Djebbari, qui dit tout est ouvert sur l'âge pivot, parce que tout le monde sait aujourd'hui qu'une négo, s'il doit y avoir un accord, ça passe forcément par la disparition de l'âge pivot, parce que la CFDT l'exige et que bon. Mais il faut aussi que la CFDT s'engage à vraiment mettre l'histoire d'équilibre financier, de s'engager et d'accepter et de proposer différentes mesures pour y arriver. Et c'est là peut-être que le bât blessera. Mais en tous les cas, c'est la condition sine qua non pour que la CFDT signe l'accord. Ce qui ne veut pas dire que les trains vont rouler après.
Bien sûr.
Voilà.
Parce
mais
après,
c'est simplement une sorte un coup d'air, un peu d'oxygène pour le gouvernement, mais voilà,
mais jusqu'à demain, on va voir ce que dit demain Édouard Philippe. Les trains y roulent mieux, mais quand même, le taux de grévistes a rebondi encore à 32,9% aujourd'hui contre 6,8% hier.
Oui, ce qui est symbolique parce que ce sont les journées mobilisation.
Exactement,
donc,
mais
sûr.
Malgré tout, c'est à signaler et ça a encore empêché des gens. Charles Villeneuve, Catherine nous disait on est dans le en même temps. Vous nous disiez aussi on est dans le en même temps parce qu'on entend évidemment.
Non, moi je dis que le en même temps a plutôt disparu.
Oui, mais parce qu'à la fois, il faut servir la droite, il faut les écouter. C'est Darmanin qui s'y colle, du coup, le ministre de l'Action publique.
Mais d'accord, mais moi, ça me paraît beaucoup plus complexe que tout ce que je viens d'entendre, aussi bien de Mickaël que de Catherine. Pourquoi? Parce que quand on regarde la manifestation et qu'on écoute les prises de parole d'un certain nombre de représentants syndicaux, on découvre avec surprise, quand même, que si on écoute la CGT et FO, finalement, c'est une réforme qui profite qu'aux cadres. Et tout d'un coup, on voit le représentant de la Confédération générale des cadres qui vous dit, de toute façon, on ne va pas se laisser faire. Parce que nous, de toute façon, dans cette affaire, on nous oublie complètement. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que la voie de sortie est beaucoup plus complexe qu'on ne le croit, qu'on ne le présente, qu'on ne l'imagine. Parce que ce que j'entends là, c'est ce que raconte en sous-main le pouvoir, l'exécutif. On va faire disparaître, on va occulter complètement l'âge pivot. Part des artifices de langage et de communiquer. Je veux bien, mais le Premier ministre, qui a fait sa marque de fabrique, justement, du maintien de l'âge pivot, il sera quand même ébranlé sur le plan de son image, de sa fameuse image de marque. Alors, le président de la République, lui, qui n'a rien dit que seulement je voudrais un compromis assez rapide, c'est tout, parce qu'il n'a pas fixé de ligne de conduite réelle. C'est pour ça que je trouve que c'est la voie de sortie beaucoup plus complexe qu'on le croit.
Alors, Mickaël Darmon.
Paradoxalement, si effectivement l'âge pivot disparaît, c'est Édouard Philippe qui va gagner. Parce qu'en réalité, vis-à-vis de l'électorat de droite, il sera tombé au champ d'honneur. Donc il n'aura pas, lui, perdu ses valeurs. Il aura perdu parce que le président de la République a intégré la notion d'âge pivot, de mesure d'équilibre.
C'est compliqué.
Il a intégré. Oui, c'est compliqué.
Non, moi, c'est très simple.
Non, mais ce que je veux dire,
l'amour de la complexité n'est pas le monopole. Tu tiens un langage de l'exécutif.
Je vois comment les choses se dessinent, c'est tout. On va tenter de clarifier ce qui se passe du point de vue effectivement de l'exécutif. L'enjeu pour Emmanuel Macron est de ne pas fâcher l'électorat de la droite, parce que c'est aujourd'hui avec cet électorat qui peut être réélu en 2022. Oui. Le fait aujourd'hui de dire
on lâche l'électorat de la droite,
et bien tout simplement à ce qu'il veut absolument un âge pivot. Il veut une mesure d'âge.
Et s'il renonce à l'âge pivot ?
Eh bien, c'est Emmanuel Macron qui perd l'électorat de droite et c'est Édouard Philippe qui aura montré que lui...
Que lui, il a tenu jusqu'au dernier moment et qu'il a été obligé de lâcher parce qu'Emmanuel Macron, finalement, lui avait donné une obligation de résultat.
Sur les images des uns et des autres, eh bien, effectivement, ça peut être cette répercussion-là.
Je vous donne les chiffres parce que c'est important de vous faire le point et de pouvoir comparer aussi parce qu'on a les chiffres d'occurrence maintenant sur la mobilisation du jour. Alors, sur Paris, cette mobilisation, selon Occurrence, 44 000 dans la capitale. Annoncé tout à l'heure, je vous le disais, la CGT, 370 000 personnes. Vous imaginez ? On a quasiment multiplié par...
Ah, mais quand
par...
on aime, on compte pas. Ah, ça, ben c'est
voilà.
Connu.
Voilà, voilà la formule de Catherine. Le 17 décembre, Occurrence annoncé 72 500 personnes. On était sur 40 000 le 5 décembre. Donc, on voit bien que les chiffres d'Occurrence, en tout cas, ce soir, 44 000 contre 370 000 pour la CGT, c'est même plus un fossé à ce niveau-là. On a Kevin au téléphone dans une petite seconde. Kevin qui nous appelle du 44... Bonsoir
oui,
Kevin.
Bonsoir Nathalie.
Bonsoir à vous.
Bonsoir Nathalie, bonsoir la grande voix.
Bonsoir.
Bonsoir.
Oui, bonsoir donc, à vous. Moi, je voulais intervenir un petit peu sur l'évolution. En effet, je suis d'accord avec vous. Hein. J'écoutais un peu le début de votre conversation. La sortie de crise, elle est compliquée parce que de toute façon, il y a un électorat de toute façon qui sera pas satisfait, que ce soit l'électorat de gauche ou l'électorat de droite. Moi, je pense qu'il y en a un qui a fui de ses couteaux en prévision de 2022, c'est Xavier Bertrand, avec peut-être une auto à l'intérieur du gouvernement qui s'appelle Monsieur Darmanin. Parce que clairement, je pense que s'il y a un recul sur l'âge pivot, moi, je pronostique une candidature à droite en dehors des Républicains classiques.
Kevin qui nous écoute régulièrement, qui intervient régulièrement aussi dans les grandes voix, je reconnais votre voix, et qui a souvent une bonne analyse, je dirais.
Bah c'est un peu d'un mot. Kevin vient effectivement d'écouter attentivement et à ce sentiment-là que je partage, qu'effectivement l'enjeu étant de pouvoir récupérer ou gagner ou conforter l'électorat de la droite, celui qui se fâchera avec, déclenchera la possibilité d'une autre offre.
Mais pourquoi pas, si je suis ton raisonnement
Très vite.
C'est-à-dire que l'homme fort sera de toute façon à la fin de toute cette affaire, le Premier ministre. Mmh. Pourquoi le Premier ministre ne se présenterait pas à l'élection présidentielle
Pour
être dans
la boxe, mais il faut quand même monter sur le ring.
Bon, merci à Kevin, en tout cas, toujours pertinent, et merci à vous. On se retrouve dans une seconde.
La suite de votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est dans un instant sur Europe 1. Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Nathalie Lévy et jusqu'à 19h tous les jours. C'est le débat des grandes voix avec ce soir autour de vous Nathalie, Catherine Ney, Charles Villeneuve et Mickaël Darmon.
On va traverser la Manche pour se changer un tout petit peu les idées, oui. Si vous voulez bien, les grandes voix. On vous attend rarement sur ces sujets-là. Mais quand même, écoutez ce coup de tonnerre à Buckingham. Le prince Harry et son épouse Meghan Markle qui ont créé la surprise hier en annonçant leur décision de renoncer à leur rôle de premier plan au sein de la famille royale britannique. Mais oui, je vous vois ricaner. Mais ça
le
fait la une. Ça fait aussi.
Non, mais d'abord, ils n'ont jamais eu le premier rôle. Le premier rôle, c'est son frère, le frère aîné, c'est-à-dire l'héritier légitime.
Ça, oui, mais enfin, ils étaient quand même, il y a 20 mois, ils étaient le couple emblématique de la couronne parce que elle représentait
le premier plan.
Mais c'était pas le couple héritier, c'est pas lui qui serait le roi.
Et donc, je pense que c'est un très bon épisode de la future série sur la famille royale sur Netflix. Ça parfait parce que il y a quand même le business du royal baby, il y a le business du cœur, il y a le business là maintenant.
Il y a tous les ingrédients.
Évidemment, du couple qui
se sent le rebelle
ne peut plus supporter la surexposition médiatique et veut voler de son propre finalement de même
avec ses propres deniers aussi puisqu'ils
oui,
ont
mais
des
ça on va voir
si vous y croyez pas Catherine vous pensez que c'est
il a quand même une rente
de son père et puis sa mère avait donné l'essentiel de l'héritage lui avait donné puisqu'elle savait que son fils aîné serait roi donc il a quand même de l'argent mais voilà donc ils ont déposé des brevets il y a 2 mois sur tout ce qui était les vous savez, les tasses, les assiettes, tout ce qu'on vend. Ça qui rend
le merchandising.
Voilà.
Mais donc, c'est ce qui fait aussi
sur
que...
Les mugs,
etc. Voilà. C'est pour ça aussi que les critiques sont acerbes dans une partie de la presse britannique, parce que tout ça, quand même, c'est bien joli pour l'image. Mais...
Non, mais il faut dire que les Américaines ne portent pas chance à la monarchie britannique, parce qu'avec Wallis...
Wallis
qui avait épousé...
Le moment politique est intéressant à double entrée. D'abord, ils étaient ambassadeurs du Commonwealth et ils avaient effectivement un large territoire sur lequel ils devaient réinvestir l'influence britannique au moment où justement il y a le Brexit. Les symboles étant ce qu'ils sont, c'est aujourd'hui que les députés viennent d'approuver également à Londres.
Vont d'approuver, c'est fait ou pas ?
Ils sont approuvés aujourd'hui pour le 31 janvier. Aujourd'hui, la sortie, après 3 ans de sortie de crise, c'est aujourd'hui. Donc il y a un double... On va dire une double sortie aujourd'hui, Meghan et son mari et en même temps le Brexit. Mais en fait, surtout, ce qui est intéressant, c'est au fond, on voit bien que quelque part, comme elle connaît parfaitement son rôle, elle est quand même actrice, elle est comédienne, elle a lu le scénario à l'avance. Elle ne veut pas se faire enfermer dans le scénario habituel de la princesse Paria à côté des chouchous.
C'est elle qui mène la barque, c'est
Kate
ça
et William. Je ne sais pas s'ils mènent la barque. En tout cas, ils sont les deux, de ce point de vue-là, ils sont les deux rebelles et deux
rebelles.
Et puis moi, ce qui me frappe quand même,
tous ces commentaires ne peuvent de toute façon trouver leur efficacité qu'avec l'aval de la reine.
Il faut savoir que 93 ans qui en a perdu son latin.
Leur refuse complètement. Bon, de toute façon, un largage total, ils ne peuvent de toute façon larguer les amarres comme ils veulent faire. Ça, c'est la première chose.
En tout cas, ils n'ont pas pris soin de lui dire.
Et la deuxième chose, c'est vrai que nous pleurons sur la dure condition d'un couple royal. C'est affreux, d'ailleurs. Avec la grève reste.
Qui pleure, parce que là, on
est affreux. Ouais.
Non, mais là, Charles a raison. C'est que c'est comme
très
étonnant.
Mais vous étiez d'accord pour en parler, Charles. Ne le faites pas à l'envers.
Je prends la défense de Charles. Et là où il a raison, c'est qu'il restera toujours étonnant, et ça m'a toujours étonné à chaque fois, à quel point en France, pays républicain, où nous avons destitué la monarchie, où on pointe en permanence les comportements de la monarchie républicaine, dès qu'il se passe quelque chose dans la famille royale de l'autre côté de la Manche, on est absolument en passion. Donc il y a quand même un problème qu'on n'a pas réglé.
Exactement. Un vieux remords d'avoir tué et le roi et la reine.
C'est ce que dit
Nicolas Sarkozy en conseil des ministres.
Non mais quand même, parce que cette rupture, elle est sans précédent dans un climat effectivement politique en Grande-Bretagne qu'on commente chaque semaine depuis un moment maintenant, ou quasiment chaque semaine avec le Brexit. Sans précédent, avec une reine très âgée, 93 ans.
C'est une évolution de la monarchie.
C'est une évolution
côté de la Manche.
Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait déjà laissé entendre à sa grand-mère qu'il pourrait prendre le large et qu'elle lui avait dit d'attendre, de ne prendre aucune décision. Et sans attendre, là, il l'a annoncé, alors il est passé outre. Et d'ailleurs, déjà, il y avait une forme de rupture qui avait commencé, parce que pour ses vœux, la reine avait posé sur la table la photo de son frère aîné avec la famille, tout le monde sauf les Sussex qui commençaient à lui l'agacer.
Nathalie, vous évoquez la reine.
D'un mot ?
La reine, si vous voulez, elle est symbolique de ce qu'elle a vécu à 23 ans dans rues de Londres au moment du Blitz, c'est-à-dire les 47 jours de bombardement de la chasse allemande sur Londres. Et croyez-moi, sa disparition ce jour-là, ce sera toute une partie de l'histoire de l'Angleterre, notamment de la Deuxième Guerre mondiale, qui va disparaître. C'est en cela qu'elle est une icône quasiment intouchable.
Alors, en tout cas, Harry et Meghan, figurez-vous qu'ils sont déjà mis sur la touche par Madame Tussauds. Le musée londonien, ils ont été relégués dans une salle annexe. Vous voyez ? Non, mais ça va vite quand même.
Oui, comme quoi, ils ont eu raison, parce que quelque part, ils étaient relégués dans l'annexe du protocole.
Bon, donc ça n'aura pas traîné. Merci les grandes voix, vous êtes mouillées aussi sur ce sujet. Non. Merci à vous. On vous attend sur tous les sujets, c'est ça qui est bien. Gérard Larcher, à votre micro dimanche dans le Grand Rendez-vous sur Europe 1. C'est de 10h à 11h le dimanche, le patron Les Républicains du Sénat avec vous, Mickaël Darmon. Merci les grandes voix.
À suivre, Nathalie Lévy.
À suivre, restez avec nous, c'est Isabelle Millet pour un nouveau journal complet.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1.